C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Transcontinent Queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Eh bien, c'est le retour du segment Transcontinent Queer, des nouvelles queer du Canada francophone. On rejoint donc Amé Simard, responsable du développement communautaire et chargée de projet pour le comité franco-queer de l'Ouest. On rejoint Amé, si je comprends bien, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Salut Amé!
Allô, Denis Martin, merci de m'accueillir.
On est bien content que tu sois là. À Toronto, ben, c'est une première. Georgelie Berry, qui est coordonnatrice des services d'établissement des nouveaux arrivants chez Franco-Queer. Bonjour, Georgelie.
Bonjour, Denis, et bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être là.
On est bien content de te recevoir. Et ben oui, notre activiste, et j'aime bien dire super-héros du VIH à Clare, en Nouvelle-Écosse, Dan Robichaud. Salut, Dan.
Bonjour, Denis Martin. J'aime bien ça de voir des nouveaux visages sur le panel aussi.
Ah, c'est le fun. C'est le fun. Allez, on va y aller tout de suite. On va lancer la discussion. Puis je pense que je vais lancer Amé là-dessus parce que il y a des enjeux d'iniquité d'accès pour les soins de santé. Les francophones hors Québec et les anglo-québécois ne peuvent pas toujours accéder à des services de santé dans leur langue et qui risquent donc de subir des répercussions négatives. Puis ça, c'est ce que dit un nouveau rapport du Sénat.
Oui, exactement. Tu as super bien résumé ça. Dans le fond, ce nouveau rapport du comité sénatorial qui était en charge d'investiguer tout ça a noté que y a un grand coût puis une élévation des risques, des déterminants de la santé, des piètres résultats en lien avec le fait que trouver des services de santé en français dans les provinces de l'Ouest, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et encore moins quand t'es une double minorité, soit queer et francophone.
Et ça peut avoir des impacts sur la santé parce qu'on s'entend, quand on se fait pas servir dans sa langue, quand on est malade, de trouver les mots dans l'autre langue, c'est déjà un problème. Et ajoutons à ça le fait d'être queer puis de devoir aussi expliquer ça dans une autre langue.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, je pense qu'il y a un super bel article de Rad Khan qui est sorti, qui disait justement quand on est malade, on n'est pas bilingue. Tu sais, on veut avoir les mots exacts pour expliquer exactement la nuance de comment on se sent, des enjeux auxquels on fait face. Puis quand on n'est pas à son meilleur, ça peut être difficile de penser en plusieurs langues en même temps. Les risques et les déterminants viennent vraiment du fait que ça peut vraiment créer une méfiance. Tu sais, comme si les personnes trans ou de la diversité de genre n'étaient pas assez méfiantes du système de santé pour plusieurs raisons liées à la discrimination, etc., dans le passé. Le fait de, en plus, ne pas recevoir les services dans sa langue maternelle cause une amplification de cette méfiance-là.
Bien, moi, je peux te parler d'une expérience personnelle parce que j'ai vécu au Canada anglophone et j'étais à Halifax quand j'ai eu mon diagnostic de VIH. Puis j'avoue que ça a été vraiment compliqué de trouver une psychologue avec qui je pouvais parler. Parce que là, il fallait que je parle en anglais, puis je suis parfaitement bilingue, ça n'a rien à voir, mais là, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pour les autres là, sur le panel, si c'est quelque chose que vous voyez dans vos régions aussi. Peut-être que je vais lancer la balle à Georgelie. Oui, vas-y, Georgelie.
Oh, bien sûr, absolument. En Ontario, la situation est pareille. Donc, surtout chez Franco-Queer, on accompagne des personnes qui sont nouvellement arrivées francophones. Donc, quand une personne trans arrive chez nous, le plus grand défi, c'est accès à des services en français, surtout quand on parle des services de santé. Et Amé l'a déjà résumé, donc rencontrer son médecin de famille, ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, c'est déjà, ça renforce les discriminations, ça renforce les préjugés, ça renforce la peur. Donc, c'est pareil ici en Ontario.
Dan, je suis certain que tu as quelque chose à dire là-dessus parce que toi aussi, tu es un usager comme moi du service de santé.
Oui, c'est pas très différent en Atlantique. Il y a des manques, surtout au niveau de la langue, là, parce que moi-même, j'ai vécu ça comme un patient du VIH. Lorsque la traduction des termes, les termes sont très techniques, puis la traduction est pas évidente, que même des médecins que j'avais, que le français, c'était leur langue maternelle, là, on a appris des nouveaux termes ensemble. Ça fait que c'est pas très différent. Des fois et tout, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est que si on se comprend mal avec un médecin, on n'a point les services qu'on veut.
Ouais.
parce qu'on comprend simplement pas les termes, là. Le
Ouais.
médecin, c'est pas un lexique non plus, là.
Il y a des enjeux, là, parce que là, on parle de soins de santé, puis si les ordonnances ne sont pas rédigées ou faites d'une façon qu'on peut comprendre, il y a des risques de santé, puis là, on peut aller très loin. Alors, c'est quand même un sujet qui est primordial. Je vais rester avec toi, Dan. J'aimerais qu'on parle de sous-financement pour les programmes destinés aux personnes queer, une question cruciale en Nouvelle-Écosse. Et au
Oui,
Nouveau-Brunswick aussi, j'allais dire, oui.
absolument. En Nouvelle-Écosse, bien qu'on a fait des programmes, les programmes queer et le financement des programmes queer à toute l'Atlantique, c'est une réalité constante. Beaucoup d'organisations fonctionnent avec des très petits budgets qui sont des budgets précaires, souvent à court terme. Puis ça rend difficile de rendre des services durables. Surtout en Nouvelle-Écosse, on a vu des organisations qui disparaissent ou qui ralentissent leur activité et on continue à le voir. Je ne le dis pas juste au passé, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Faute de manque de ressources suite à l'annonce dévastatrice du budget en Nouvelle-Écosse. Pourtant, le besoin est encore là.
Puis, excuse-moi, on a sauté rapidement, mais au Nouveau-Brunswick, on parlait aussi de sous-financement pour les chirurgies d'affirmation de genre. On retourne dans la santé, là, qui devient un problème là-bas.
Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que c'est la même réalité en Nouvelle-Écosse aussi, là.
Ah, ouais.
Et oui.
Bon, fait que ça va pas très bien pour les services de santé dans nos communautés.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Bon, bien, on continue avec notre panel, notre groupe, donc, d'un boileau du Canada. Je retourne en Ontario, Georges Lee, parce que beaucoup de personnes immigrantes, pouvoir s'établir au Canada, c'est une grande liberté. Bien, parlons-en de ces personnes-là qui doivent fuir la discrimination. Peux-tu nous dresser un portrait rapide, là, de qui sont ces personnes? Et je sais que c'est toi qui s'en occupe à Franco-Queer, là.
Bien sûr. Donc, si on parle de portrait, peut-être que ce ne sera pas trop beau à dessiner,
Ouais.
surtout quand on sait qu'on, dans le contexte d'immigration, on accompagne des personnes à très vulnérables, surtout d'origine afro-caribéenne, et surtout la majorité de ces personnes vient des pays où le simple fait d'être homosexuel ou d'être gay ou d'être membre de la communauté, c'est déjà l'existence est déjà criminalisée. Donc, le fait d'être au Canada se voit comme on est sur une terre de liberté, une terre d'accueil. Cependant, c'est comme on parle de problèmes de soins, d'accès aux soins de santé dans la langue ou
Ouais.
en français. Donc, l'atterrissage, on peut considérer l'arrivée de ces personnes comme une sorte d'atterrissage forcé, parce qu'il n'y a pas assez de services en français, il n'y a pas assez de ressources. Et puis, l'immigration, dans ce contexte d'immigration, quand on arrive, on arrive surtout avec des chocs post-traumatiques.
On a tout un
Donc, on
bagage, oui.
sait justement, donc, quand cette personne arrive, il ne suffit pas d'avoir un toit. Déjà, en Ontario, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, on fait face à un grave problème de logement.
Oui.
Donc là, même si j'ai mentionné un toit, même avoir accès à un refuge, c'est très difficile. Et compte tenu l'identité queer, c'est très difficile parce que les services ne sont même pas adaptés. Avoir accès à un refuge, ce n'est pas facile. Avoir accès à des soins de santé, ce n'est pas facile. Donc, même si on voit cette terre comme une terre d'accueil, donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à améliorer pour rendre l'expérience des gens vraiment agréable ici au Canada.
Bon, là, on parle d'immigration, mais je vais aller dans l'Ouest parce que là, le problème est aussi vis-à-vis des personnes trans, créer ou avoir des espaces bienveillants dans le domaine de la santé, notamment pour les personnes trans, c'est pas évident. Et le comité franco-queer de l'Ouest offre une formation pour les professionnels de la santé qu'on appelle transéquité. Ça m'intéresse. C'est quoi ça?
Oui, absolument. Transéquité, c'est un projet qui couvre vraiment tout l'Ouest canadien. Donc, on parle des deux territoires au nord, des quatre provinces.
Aïe, aïe, aïe.
On est occupé. Mais dans le fond, c'est une certification qui vise les prestataires de santé francophones dans l'Ouest pour qu'ils puissent avoir accès où justement, tu sais, Daniel parlait des termes et du bon vocabulaire pour rendre les personnes trans et non-binaires confortables dans leur milieu de santé. Donc, tu sais, on parle du français inclusif, comment utiliser des néopronoms comme «iel», mais aussi s'assurer que les prestataires connaissent bien, en anglais, on dit comme le «pipeline», donc les démarches cliniques pour aller chercher des soins d'affirmation de genre, même si ça doit être dans l'anglophonie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de rendre le plus compréhensif possible pour mieux outiller les prestataires de santé à aider leurs patients et patientes qui font face à ces intersections-là de francophones trans, francophones et non-binaires, et s'assurer qu'on collabore avec les services anglophones pour que les personnes francophones soient bien accueillies dans ces espaces-là
Des
aussi.
espaces, des espaces bienveillants et aussi donc former les professionnels de la santé, c'est pas évident. Puis vous faites ça en ligne, j'imagine, plus parce que c'est quand même assez grand comme territoire à couvrir.
Oui, on fait ça en ligne, sur Zoom, au moins. On a un atelier au moins une fois chaque 2 mois sur soit notre atelier de démystification de base ou sur les soins d'affirmation de genre dans une province ou un territoire spécifique ou sur le français inclusif. Mais on les fait aussi sous demande et pour la durée du projet, donc jusqu'en 2028, c'est gratuit. Donc, n'importe quelle institution ou ordre professionnel ou professionnel de la santé peut nous demander pour des ressources, puis des ateliers, dans les prochaines, 2 années, ce qui est vraiment, vraiment excitant. Puis on encourage, tous les prestataires de santé dans l'Ouest canadien d'en prendre avantage.
On va rester dans les espaces bienveillants, puis on va aller faire un petit tour dans l'est du pays, les provinces de l'Atlantique. Ben, il y a un nouveau bar à Halifax, le Backlot.
Ben oui, il y a un nouveau barguet qui s'en vient, ça s'appelle le Backlot, c'est sur la rue Gottingen à Halifax. C'est environ dans la même région où se trouvait l'ancien club Energy.
Hey, mon Dieu, j'ai fréquenté ça, moi.
Et c'est pas d'hier.
Ouais, ça me donne de l'âge.
On parle d'un espace qui va avoir 2 étages avec un lounge plus calme en bas et une piste de danse en haut lorsqu'il y aura une programmation de soirées de drag, de karaoké et des
Mais
événements communautaires.
on s'entend, Dan, que c'est quand même assez inusité alors que les bars, les espaces queer ferment partout au pays.
Oui, c'est vraiment important. C'est pas juste un bar, c'est un espace sécuritaire, c'est un point de rencontre, c'est une culture qui continue à exister. C'est le patrimoine bâti.
Oui.
Écoute, on mentionnait juste un bar Energy, là, c'est fermé il y a 20 ans. On a encore des histoires à raconter.
Ah oui, on pourra en raconter plusieurs. Hey, les amis, on est arrivé à la fin de notre segment. Vraiment, c'est un plaisir de discuter de ces nouvelles qui touchent nos communautés d'un bout à l'autre du pays. Alors, je vais vous déprésenter tout le monde. Alors, on vient d'entendre Dan Robichaud, activiste et j'aime bien dire super-héros, queer et VIH, à Clare, en Nouvelle-Écosse. J'aimerais aussi remercier Georges Libéré, qui est coordonnatrice des services d'établissement des nouveaux arrivants chez Franco Queer à Toronto. Et enfin, à l'autre bout du pays, Amé Simard, responsable du développement communautaire et chargée de projet, Comité Franco Queer de l'Ouest à Vancouver. Merci à tous les trois et à la prochaine.
Merci.